famille, mon oncle Antoine, Corinne, Gérard, Blanche, mes cousins, les Sarkis, les De Vogel, qui ont grandi ici, qui ont tellement reçu. C'est aussi une bénédiction pour des amis qui me sont très chers, Louis, Rebecca, Gab, Nesrine, et puis tant d'autres aussi que je ne pourrais citer. Pour ma belle famille, Fred et Sylvie, puis pour ma femme extraordinaire, Camille. Mine de rien, si elle est aussi exceptionnelle, c'est aussi parce qu'elle a grandi ici, et c'est aussi grâce à vous. Donc j'ai... Donc je profite de cet instant solennel pour vous dire merci. Pour parler de la cité un peu, donc on est une église, comme vous avez pu voir, très cosmopolite, très internationale. On est basé à Paris, dans le 13e arrondissement. On se situe entre Denfert, Rochereau et la place d'Ali, pour ceux qui ont osé s'aventurer dans la capitale. Ça a été implanté par Frédéric et Vanessa Dallet, il y a 10 ans. Donc Frédéric et Vanessa Dallet auraient dû être là aujourd'hui. Malheureusement, Fred s'est fait très très mal au dos. Ça fait 8 mois que ça dure. Donc là, il a dû rester au calme. Donc je le remplace aujourd'hui. Mais vous avez toute leur amitié, toute leur affection, ainsi que Marius et Simona, qui est le troisième couple d'anciens à la cité. Il y a aussi toute une diaspora, finalement, du CMLK à la cité. Donc Louis, Rebecca, Camille, Théo, Margot, Kyoko et Louise, enfin, mine de rien, vous êtes quand même fortement représentés. C'est quand même 1/10 de notre église, donc on peut pas le négliger. Et puis on envoie aussi nos jeunes dans vos colos, on marie vos femmes. Peut-être que ça va se perpétuer, je sais pas, on verra par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, nos églises sont extrêmement liées. Donc c'est vraiment super de pouvoir ici pouvoir concrétiser cette relation d'amitié qui dure depuis des années maintenant au travers des personnes que l'on connaît en commun. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai que ce matin, nous sommes des invités, mais on se sent aussi en famille. Donc merci pour votre accueil chaleureux. Ok, ce matin... Je vais parler d'un sujet qui, mine de rien, a été un thème dans la louange toute cette matinée. C'est la radicalité. C'est un gros mot. C'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui impressionne. Là, récemment, il y a la Milévude, qui est un peu l'organisme qui s'occupe de voir les dérives sectaires dans les églises, qui a fait une enquête, qui a écrit un rapport. Les églises évangéliques sont un peu sous le radar. On essaie de guetter un peu ces dérives sectaires, etc. Et pour autant, la radicalité est une notion qui est extrêmement importante pour nos églises aujourd'hui, pour le centre Martin Luther King et pour l'église, la cité. C'est un sujet essentiel. Donc forcément, intituler mon prêche « La radicalité », c'est un peu provoque. Mais j'ai la conviction que nous sommes tous appelés dans une certaine mesure, à vivre cette radicalité, mais une bonne radicalité, la radicalité évangélique. Et c'est là toute la différence. Donc mon objectif ce matin, c'est de couvrir un peu rapidement qu'est-ce que ça peut être cette radicalité pour nous, mais aussi de nous inviter tous ensemble et de nous encourager à entrer pour vivre cette radicalité, cette course que Dieu nous amène tous à mener pour l'expansion de son royaume. On l'a encore chanté ce matin. Et merci Antoine et toute l'équipe pour ce temps de louange extraordinaire. Je pense qu'il y a un bon terrain là sur lequel je peux bâtir. Le terme radicalité vient du mot latin radix, c'est la racine. Autrement dit, être radical, c'est aller à la racine des choses. Il y a aussi une deuxième acception qui est d'aller jusqu'au bout des conséquences impliquées par le choix initial. On couvrira cette deuxième acception plus tard. Donc si l'on s'en tire la première définition, la racine du message biblique, c'est Jésus. On peut le voir, c'est assez clair. Dans l'Ancien Testament, depuis la chute, on voit le déploiement en fait, du plan rédempteur de Dieu pour racheter l'homme et pour pouvoir réunir l'homme à lui à nouveau. Et ça, on peut le voir dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Tout pointe vers Jésus. C'est la racine du message biblique. Donc la personne de Jésus, sa vie, ses enseignements forment la pierre angulaire de ce que nous croyons. Alors au final, vivre cette radicalité évangélique serait donc d'aller à la racine du message de Jésus. Et quel est ce message ? C'est de se laisser aimer radicalement pour pouvoir aimer radicalement. Et c'est aussi simple que ça. La radicalité évangélique, c'est de se laisser aimer radicalement pour pouvoir aimer radicalement. Il y a ce passage dans 1 Jean 4, versets 9 à 11, qui dit la chose suivante. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Ce verset montre l'amour radical de Jésus, l'amour radical de Dieu. Et il est indissociable du message biblique. Et pourtant, ce message-là ne faisait pas sens à l'époque. On peut le voir quand Jésus est arrivé, quand Jésus a commencé son ministère, les Juifs attendaient un libérateur, certes, mais ils attendaient un guerrier. Ils attendaient peut-être un politicien qui allait les aider à pouvoir se libérer de l'emprise des Romains. Jésus, en effet, est venu changer le monde. Il est venu prendre le pouvoir, mais quelque chose qui est très différent de tout ce qu'ils avaient pu imaginer. La chose qu'il est venu faire, Jésus, dans ce monde, c'est d'aimer. D'un amour radical, d'un amour jusqu'au boutiste. Et c'est ça qui a tout transformé. Et ça s'est concrétisé dans ce sacrifice pour nos fautes. Ce sacrifice expiatoire, c'est le don ultime de Jésus. Et ce n'est pas uniquement pour la vie éternelle. Comme le dit ce passage, c'est aussi pour nous réconcilier avec le Père. Ce verset dit que Dieu ne nous aime pas parce que nous, on l'a aimé d'abord, mais parce qu'il nous aime en premier. Et ça fait écho un peu au partage que Fred a partagé hier, pour ceux qui étaient là. Il a dit que Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Mais par contre, il veut nous inviter dans cette danse avec lui, Jésus. Donc Jésus, Dieu et le Saint-Esprit, on est invités dans cette danse pour pouvoir récupérer, pouvoir recevoir leur amour, leur joie, etc. Dieu nous a pas créés parce qu'il en avait besoin. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Cet amour-là, il est inconditionnel. Il est gratuit. Et il ne demande absolument rien en retour. Et ça, c'est le genre d'amour qui vient au bout de toutes nos chaînes, de toutes nos brisures, de toutes nos forteresses intérieures, nos insécurités, nos limitations, nos peurs. Et c'est le genre d'amour qui libère. C'est le genre d'amour qui réunit les familles. C'est le genre d'amour qui guérit. C'est le genre d'amour qui donne la vie. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'amour comme celui-là ? Dostoïevski, Camille m'a demandé de le citer, donc je vais le faire, l'exprime dans Les Frères Karamazov de cette manière. Car du moment que tu l'as tellement plein, comment plus il, Dieu, le plaindra, lui dont la miséricorde et l'amour sont infiniment plus grands que les tiens. Jésus était totalement radical dans sa manière d'aimer les gens. Et puis il nous invite aujourd'hui, je le crois, le centre et l'exacité à le suivre et à vivre cette radicalité. Mais dans ce chemin, dans cette poursuite de la radicalité évangélique, on a aussi des responsabilités. Vous en faites pas, elles sont pas très grandes. La première responsabilité, c'est d'abord dire oui à son amour. C'est d'accepter cet amour inconditionnel, gratuit. Dans la société, et c'est pas breaking news comme on dit, on est tous à la recherche peut-être d'approbation, de reconnaissance. On est tous à la recherche d'un statut. On veut, mine de rien, avoir une vie qui a du sens. On veut avoir un impact, on veut faire la différence. Et puis, on a tendance aussi à se mesurer aux autres, à se comparer pour voir qui sera le plus grand. On est, mine de rien, dans une performance perpétuelle. Jésus, lui, ne demande rien de nous. Il nous aime, il vous aime, tel que nous sommes, tel que vous êtes. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et là, je recite le passage. Et cet amour de Dieu consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Il n'y a rien que vous ne fassiez qui pourrait faire en sorte que Dieu vous aime plus. Là où vous êtes, tel que vous êtes, Dieu vous aime. Être un chrétien radical suggère de poursuivre toujours plus finalement cet amour dans notre vie. Et c'est être plus pauvre de ce qui n'est pas Dieu. On le chantait encore, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le but de notre vie, c'est cette sanctification, c'est de pouvoir être être, pouvoir mariner dans la présence de Dieu, être rempli de lui, et faire en sorte qu'il y a moins de nous, mais de plus de lui en nous. Et quand on dit oui à Jésus, on se laisse consumer par cet amour finalement. Et c'est là où il y a une sorte de fusion cosmique qui se passe et que Jésus vient vivre en nous. Et la Bible dit que nous ne faisons qu'un. Avec Jésus et l'Esprit de Dieu en nous, tout change. Et je pense qu'ici, il y a probablement des tas d'histoires de conversions extraordinaires, des conversions peut-être aussi toutes simples, mais je pense qu'ici, le dénominateur commun de nos conversions, c'est de voir qu'il y a un changement progressif qui s'est opéré en nous. De nouvelles pensées, un nouveau caractère aussi, peut-être moins colérique, moins agressif, plus aimant. On voit les choses différemment. Il y a un ami qui s'était converti et qui avait dit, c'est étonnant, le jour de sa conversion, c'est comme s'il voyait les, c'est comme si, ou plutôt avant sa conversion, c'est comme s'il voyait les choses en gris et en blanc, en noir et blanc. Et lors de sa conversion, il disait, c'est comme si aujourd'hui je vois de la couleur. Et je trouve que c'est une belle image qui montre qu'il y a un changement qui s'opère petit à petit. Et une fois qu'on s'est laissé aimer, une fois qu'on accepte cet amour, on peut enfin aimer en retour. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut aimer qu'à la mesure que nous sommes nous-mêmes laissés aimer. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça que cette radicalité nécessite forcément de recevoir et de faire le plein de cet amour de Jésus pour pouvoir ensuite en déborder et le donner et le déverser sur les gens autour de nous. La deuxième responsabilité, c'est du coup se laisser transformer par cet amour pour que l'on puisse à notre tour aimer comme Jésus aime, sans retenue. Matthieu 4, verset 19, dit la chose suivante. Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 4, verset 19, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Pendant 3 ans, les disciples ont passé du temps avec Dieu. Ils ont mariné dans sa présence. Ils ont vu comment il agissait, ils ont vu comment il aimait, ils ont vu comment il exerçait son ministère, et ils ont vu aussi à quel point son message était contre-culturel, mais aussi ils se sont laissés aimer. Ils ont reçu de Dieu, ils ont été éduqués, ils ont été repris. Et finalement, tout au long de cette relation, l'obsession de Jésus est devenue la leur. L'obsession de voir les vies transformées est devenue aussi l'obsession des disciples, de voir des vies transformées. Et quelle a été la conséquence de ça? L'expansion de l'évangile. Pourquoi? Parce que les disciples s'étaient branchés sur le cœur de Jésus, avaient saisi son pouls et du coup ont pu porter ce message que Jésus portait. La conséquence de ça, c'est une mise en mouvement. C'est une ouverture sur l'extérieur. C'est l'expansion de la bonne nouvelle de l'évangile dans le monde. Et ça, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive dans un ghetto chrétien. Entouré de personnes formidables. Je suis sûr qu'il y a un tas de personnes formidables ici. Peut-être d'autres diront que non, mais j'en suis certain. En tout cas, c'est ce que je dois dire. Et parfois, ça peut vraiment être tentant d'être reclus sur soi-même. C'est vrai, on est bien, on a nos amis. Pourquoi s'embêter à s'ouvrir, à même accueillir des nouveaux parce qu'on est en train de discuter avec nos amis, on est bien. Ça coûte, c'est difficile. Mais Dieu nous demande d'être tourné vers l'extérieur. Et ça peut être tentant, comme je disais, d'être reclus sur soi-même, d'être fermé, et pour plusieurs raisons. La première, ça peut être la crainte, le manque de courage. Ben, c'est clair que tout le monde ne peut pas aller, nécessairement ne se sent pas d'aller dans la ville de Nîmes, aller prêcher la bonne nouvelle. Tout le monde ne se sent pas suffisant peut-être ouvert à l'autre pour pouvoir simplement accueillir et puis adresser une parole. On peut avoir une sorte de crainte, une sorte de manque de courage. Il y a aussi le confort, comme je l'ai dit, l'église est un lieu de socialisation. Les membres forment une communauté et parfois on devient peut-être un peu trop communautaire. On se fait des amis, on a nos habitudes et ce n'est pas toujours évident de sortir de ce confort-là. Et moi, il y a 4 semaines, j'ai eu une discussion récemment avec une amie de l'église qui m'a dit qu'un de ses amis non chrétiens, qui était venu à l'église après des mois et des mois de tractations, de négociations, mais si je t'assure, la cité, c'est une église géniale, super accueil, les gens sont cool, ils sont beaux, enfin bref, elle a survendu. Et le retour, donc cette personne est venue et son retour, c'était « je n'ai pas aimé ». J'ai pas aimé et du coup, ben, mon ami a demandé « mais pourquoi ?» Elle dit « je me suis pas senti accueilli, personne n'est venu me voir ». Alors pour une église qui revendique justement la valeur de l'accueil comme étant une valeur centrale, ça a été la douche froide. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on sans cesse qu'il faut qu'on se remette en question et qu'on réévalue nos comportements. Et à l'opposé, lorsque nous sommes dans le monde, notre radicalité ne doit pas devenir légaliste ni fondamentaliste. Comme des pharisiens qui exposent et jugent les péchés des uns et des autres, des non-chrétiens, mais aussi de nos frères et de nos sœurs. Et ça, c'est un énorme sujet. Parfois, la radicalité peut nous amener à vouloir imposer la loi, cette même loi que Dieu, que Jésus dont Jésus nous a libérés. Et on peut être tenté à justement vouloir l'imposer les uns aux autres. Mais c'est sans oublier, enfin, c'est en oubliant que Jésus nous a donné un ministère de réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ et nous devons être des annonciateurs de la bonne nouvelle. C'est ça notre rôle primaire. La radicalité évangélique, du coup, doit surprendre et se distinguer de toute autre forme de radicalisme en ce point précis, qui est le suivant. Elle ne construit pas des barrières entre nous et les autres, mais elle construit des ponts. Et c'est cette radicalité-là qui nous rend reconnaissables. Il y a François Esperey, un normalien, chrétien poète, qui a dit la chose suivante: la radicalité rend les chrétiens reconnaissables, non pas comme les gardiens d'une doctrine, les tenants d'une idéologie, mais comme annonciateurs de la bonne nouvelle, artisans de paix et fils de Dieu. Autrement dit, nos prochains doivent être les bénéficiaires de notre radicalité évangélique, non les victimes. Nous devons porter leur fardeau plutôt que de leur en donner. Donc je laisse chacun s'évaluer aussi dans ses interactions les uns avec les autres. Est-ce qu'on est plus prompt à juger, à mettre des fardeaux les uns sur les autres, ou est-ce qu'on est plus prompt à les porter et à cacher la nudité de nos frères et nos sœurs? La radicalité évangélique est un bon terreau pour la foi. Et c'est ça qui est énorme. C'est un bon terreau pour que la foi grandisse. Ça élève ce qui est vécu à la hauteur de ce qui est cru. Les croyants remplis d'amour réalisent des œuvres extraordinaires, que ce soit devant des milliers de personnes ou que ce soit de manière plus discrète. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. William Booth, que vous connaissez peut-être un peu, est un pasteur méthodiste du 19e siècle. Alors qu'il se promenait dans les rues et bas-fonds de Nottingham, il a eu le cœur brisé par la misère qu'il voyait. Et il dit, donc là je le cite, il dit avoir eu la vision de toutes ces personnes qui s'en sortaient. Il a ensuite fondé l'Armée du Salut, organisation que vous connaissez aussi peut-être, et qui a été un acteur majeur dans la réforme du système social au Royaume-Uni. Un gars qui se balade dans les rues de Nottingham a une vision, il crée un organisme pour venir en aide à ses pauvres. Et quelques années plus tard, il se retrouve au cœur de la réforme du système social des États-Unis. Est-ce que ce n'est pas une chose extraordinaire, ça? J'ai dit quoi? États-Unis. Les États-Unis aussi. De l'Angleterre, bien entendu. J'ai une autre illustration. Il y a 40 ans, un homme fonde une église dans la région de Nîmes. Des personnes le rejoignent, grandissent avec lui dans la foi, dans cette radicalité de l'évangile. Il y a les Noëls du cœur qui sont fondées, la maison des parents qui est fondée, des personnes qui quittent l'église et qui vont implanter des églises ailleurs. Ça fait 40 ans que ça dure. Cette église, vous la connaissez, c'est la vôtre, le CMLK. Vous avez été des exemples, et je parle, et j'encourage aussi mes amis de la cité à prendre exemple de ça, des exemples d'une radicalité extraordinaire qui a été au bénéfice du monde, au bénéfice de vos voisins. Et pour ça, je vous remercie d'avoir couru cette course jusqu'à présent. Ne sous-estimez pas l'impact incroyable que vous avez eu et que vous continuez d'avoir dans la région. Donc la cité, franchement, qu'on puisse prendre ça en exemple. Mais pour autant, chers amis du centre, ce qui est compliqué aussi maintenant, c'est au bout de 40 ans, c'est de pouvoir maintenir ça. comment maintenir la radicalité, cette radicalité évangélique, cette radicalité de voir des gens sauvés, rachetés, de voir les vies transformées. Aujourd'hui, le père de cette fondation est parti. J'ai eu le privilège d'assister à la commémoration et c'était très touchant. Et son œuvre a été portée par nombreux d'entre vous et vous continuez de le faire aujourd'hui. Mais voilà, ça fait 40 ans. Où est-ce que vous serez dans les 40 années à venir? Comment pouvoir développer cette radicalité à nouveau? Et vous devez le faire. La région Nîmes, la région de la France, et peut-être qui sait, l'international a besoin de vous. Donc je vous en conjure, recherchez cette radicalité. Pour en revenir à cette radicalité, on a dit que c'était se laisser aimer radicalement pour aimer radicalement. Et c'est un principe sur lequel on peut tous adhérer. Tous les êtres humains sont d'accord sur ce principe. Mais être radical a un coût. Et là, on va parler de manière honnête, on va être authentique. Ça a un coût et on ne peut pas le nier. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et je ne suis pas toujours violent, moi. Hein, Camille? Ce sont les jusqu'au boutistes qui s'emparent du royaume de Dieu. Rappelez-vous maintenant de la deuxième acception du terme radicalité. Être radical désigne une personne qui va jusqu'au bout des conséquences impliquées par le choix initial. Cela veut dire que peu importe ce qui arrive dans la vie, on ira au bout de notre choix de suivre Jésus. Est-ce qu'on peut dire, nous, dans notre quotidien, que peu importe ce qui arrive, on suit Jésus? Pour certains, ce coût de la radicalité, c'est leur vie. On pense aux églises persécutées, en Chine et ailleurs, qui payent leur amour de Jésus par leur vie, tout simplement. Pour d'autres, la recherche de cette radicalité les amènera à renoncer à certaines choses. Les ambitions personnelles, des plaisirs terrestres. Parfois, c'est juste difficile de mettre Dieu au centre. On est préoccupé, voire abattu par les soucis de la vie. On traverse des divorces, on traverse des décès, des galères financières, des maladies. On souffre aussi. Bien que paradoxalement, c'est souvent dans la difficulté qu'on est souvent le plus radical. Et c'est intéressant de voir que ces chrétiens persécutés qui savent qu'ils risquent d'en payer le prix de leur propre vie, qu'ils ont une famille aussi, pour autant ne reculent pas. La difficulté rend souvent plus radical. C'est un grand paradoxe. Et enfin, dans certains cas, ce coût, il est difficile à payer parce qu'on se sent juste vide. On n'est juste pas intéressé par les choses de Dieu. Et ça peut arriver à des chrétiens qui soient matures, après 20 ans de marche avec Dieu aussi. Il y a un moment où on était sur la cinquième et puis on redescend, on se met en deuxième, on se gare, on attend. Drôle d'analogie, elle n'était pas écrite, je ne sais pas pourquoi, mais... Et c'est vrai ça, parfois on a juste la flemme en fait. C'est terrible à dire, hein. c'est un luxe en fait, dans notre contexte, de se dire en fait j'ai juste la flemme d'aller à l'église le dimanche matin, j'ai la flemme de connecter avec mes amis chrétiens, j'ai la flemme de prier, j'ai la flemme de chanter. Parfois on n'est juste pas intéressé. Et contrairement au processus de radicalisation, suivre Jésus n'est pas le fruit d'un endoctrinement. C'est pour ça que le coût est difficile à payer. C'est un choix motivé par l'amour suite à une rencontre qui change une vie. Qui dit choix dit liberté. Dieu nous laisse complètement libres de décider combien nous voulons de lui et du coup combien nous ne voulons pas de lui. Et par extension, il nous laisse aussi libre de décider combien on veut donner aux autres. C'est très difficile de donner aux autres quand on se sent vide. Hein. Ça finit souvent par un burn-out. Dieu nous appelle à donner parce qu'on déborde de lui. Et c'est ma prière pour nous, c'est qu'on puisse déborder de lui. Alors quel choix nous reste-t-il ou que faire quand le coût de la radicalité nous paraît beaucoup trop grand? Et ce, peu importe le cas de figure dans lequel nous nous trouvons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes convaincu que la radicalité, c'est en effet quelque chose pour vous, pour nous, comment faire pour rechercher Dieu, pour se laisser aimer par lui, pour aimer radicalement, alors que le coût, le prix à payer est juste trop grand et qu'on n'a pas envie, on n'est pas en capacité de le payer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Heureusement, la Bible montre un tas d'exemples de personnes qui étaient peut-être bien pires que nous tous réunis. Et pourtant, des personnes dont l'histoire est écrite dans la Bible, des histoires que l'on cite pour encourager les gens à suivre Jésus. Si eux l'ont fait, si eux ont réussi à s'accrocher, alors nous aussi. Je pense à David, bien évidemment, qui pour le coup en a fait des sacrés. Dans le psaume 42, on peut lire, et c'est un moment où David traversait visiblement de grandes difficultés. Il dit au chef des chantres, non, ça c'est pas lui qui le dit, mais c'est au chef des chantres cantiques des fils de Corée. Il dit, et vous le connaissez bien, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et là, on est beaucoup à pouvoir aussi s'identifier. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. À la lecture de ce passage, on ne peut que constater que David va très mal. Il est isolé, il est seul, il se sent rejeté, visiblement il n'entend pas Dieu, il le cherche, mais il ne l'entend pas, il ne sent pas sa présence. Le coût de la radicalité ici paraît très fort. Et pourtant il continue. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut. Et mon Dieu, David parle à lui-même. Il dit qu'il ne laisserait pas ses circonstances définir sa relation avec Dieu. Il ne laisserait pas ses sentiments définir sa relation avec Dieu. Il ne laisserait pas sa réalité actuelle définir la mesure de Dieu dans sa vie. Il a fait ce choix radical d'espérer en Dieu et de le célébrer, même lorsqu'il ne le sentait pas. Il ne tombe tout simplement pas dans le compromis. Hier soir, pendant la louange, Dieu m'a parlé sur sa patience, mais surtout du coup de notre impatience. On veut toujours tout de suite, souvent. On n'est pas prêt à attendre. Quand on prie, on veut une réponse tout de suite. Quand on passe du temps avec Dieu, on veut une révélation au bout de 5 minutes. Quand on ouvre notre Bible, on a pris notre thé, petit gâteau, on dit « Allez, aujourd'hui, je vais passer du temps avec Dieu et ça va me faire du bien. » Au bout de 5 minutes, on ferme le bouquin et on passe à autre chose. On a tous fait ça. On chante 3 chants et on veut déjà ressentir des frissons. On veut ressentir cette chaleur dans les mains que Gérard mentionnait tout à l'heure. On veut l'expérimenter. Et le problème, en fait, c'est pas d'avoir des attentes. C'est génial d'avoir des attentes. Dieu, tu vas me parler. Dieu, tu vas me réconforter. Dieu, tu vas me dire avec qui je dois me marier. Dieu, tu vas me dire quel travail je dois faire. On est en attente de révélation et il s'attend à ce qu'on vienne à lui avec nos attentes. Mais le problème, c'est qu'on s'arrête souvent trop tôt. On ne persévère plus. La radicalité, c'est aussi persévérer. C'est être dans la reconnaissance, comme David l'était, dans l'adoration, même quand on ne le sent pas et que cela coûte. Il y a cette histoire extraordinaire dans la Bible, dans Luc 7, 36, c'est cette femme qui a déversé, a brisé une jarre, un parfum au pied de Jésus. Les historiens disent que cette jarre valait un an de gage de salaire. De gage. Un an de salaire. Elle brise ça à ses pieds. Elle enlève le nœud de ses cheveux, qui était un acte qu'on faisait uniquement lors de la nuit de noces. Elle prend ses cheveux et elle essuie les pieds de Jésus avec ce parfum. Cette femme n'était probablement pas très riche. Elle a cassé tout ce qu'elle avait aux pieds de Jésus. Elle n'avait plus rien. Le coup de sa radicalité là est assez évident. Elle a tout donné, alors qu'elle n'avait plus rien peut-être déjà. Elle a tout donné à Dieu, elle a tout brisé à ses pieds. Et vous savez quoi? Sa percée, elle l'a eue. Elle a sacrifié ce qu'elle avait. Elle n'a pas eu peur d'aller au bout. Et sa percée, elle l'a eue. Jésus l'a regardée. Ses yeux d'amour ont rencontré les siens. Probablement, elle a été transformée en un regard. Et Dieu, Jésus l'a regardée et lui a dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Elle a eu sa rencontre qui a été déterminante dans sa vie. Et ce matin, et je conclurai là-dessus, je sens qu'il y a des personnes parmi nous qui devons retrouver cette radicalité dans l'adoration, comme on l'a chanté, mais quel encore magnifique thème ce matin, et de venir au pied de Jésus et symboliquement briser cette jarre. Peut-être que ce matin, vous n'aviez pas envie d'être là, peut-être même qu'à ces mots, vous ne ressentez rien, mais c'est OK. Comme on l'a vu, ce que vous devez faire, c'est d'avoir foi que Jésus vous regarde, que Jésus veut vous répondre et de donner votre tout alors que vous n'avez déjà rien. Alors ce matin, qui a une jarre à briser au pied de Jésus? Qui a besoin de cette radicalité? Qui a besoin de ce feu? Qui a besoin de cet amour de Dieu? Qui a besoin d'être rempli à nouveau? Qui souhaite voir ce monde transformé par la bonne nouvelle qui a transformé votre vie? On n'est pas fait pour vivre dans un ghetto chrétien. Ce monde attend, ce monde a soif. Le monde attend et désespère d'après la révélation des fils de Dieu, des fils et des filles. Le monde a besoin de nous. Recherchons cette radicalité. Donc au final, la radicalité qui est prônée dans la Bible est simple. Nous sommes radicalement aimés pour aimer radicalement. C'est tout. Le message de Jésus appliqué à notre vie nous amène forcément à élever nos standards. Et il n'y a pas de demi-mesure dans l'amour. Du moins, dans cet amour radical que Jésus veut déverser en nous et qu'il souhaite que nous déversions sur nos voisins. Alors ce matin, vraiment, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous de retourner aux racines de sa foi. D'aller chercher cette radicalité, d'oser de faire ce premier pas que vous n'avez peut-être pas fait depuis un petit moment et de briser votre parfum, votre jarre de parfum au pied de Jésus. Amen. Alors Antoine, si tu veux venir peut-être jouer, je vais simplement prier pour vous et puis je te redonnerai la main, Fred. Ouais, Seigneur Jésus, ton amour est absolument exceptionnel. C'est impensable que tu aies quitté ta place de gloire, ton trône de gloire, pour te faire homme, pour te rendre accessible, et simplement pour nous aimer. Ton amour est inconditionnel, Seigneur. Ton amour transforme tout et nous bouleverse. Et ce matin, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour les œuvres que tu as faites pour nous. Alors Seigneur, tu sais que nous sommes des hommes, nous sommes que des hommes, nous sommes imparfaits. Mais je le crois, nous venons ce matin avec un cœur sincère, Seigneur, avec une soif authentique. Nous voulons plus de toi, Seigneur. On l'a chanté ce matin, on le redit, Seigneur. On te cherche, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-nous.